Chapitre 8. Paul ne put fermer l'œil de la nuit. Il éprouvait pour Clémentia une compassion aussi profonde que tendre, et pour celui qui avait pu être la cause de ses larmes, une indignation véritable. Le lendemain, tout s'expliqua. Son oncle l'appela dans son cabinet et lui dit « Paul, tu as 28 ans et 2 yeux pour voir, n'est-ce pas ?»« Oui, mon oncle, » répondit le grave jeune homme en souriant froidement à cette plaisanterie, comme il avait l'habitude de le faire, lors même qu'elle le blessait. « Eh bien, poursuivit donc Martine, comment trouves-tu ta cousine ?»«
Moi ?» s'écria Paul, étonné d'une pareille question.
« Oui, toi, j'avais pensé à vous marier. De cette façon, rien ne serait changé dans la maison. » Paul demeura stupéfait. Jamais il n'avait rêvé un tel bonheur. Son cœur bondissait de joie. Tout à coup, un sentiment de crainte vint arrêter ses battements. Il était frappé par la pensée que les larmes de Clémentia ne pouvaient avoir d'autre cause que sa répugnance à contracter cette union. Paul voulut s'en assurer, il dit à son oncle. « Votre projet sera-t-il appuyé par Clémentia, mon oncle ?»«
Sans doute, j'ai commencé par lui demander son avis. »
« Et qu'a-t-elle répondu ?» demanda Paul avec anxiété.
« Belle question, elle y a consenti. Et pouvait-il en être autrement? Trouve-t-on tous les jours des maris comme toi? D'ailleurs, Clémentia savait que j'y tenais. »
« Elle a donc dit oui ?» insista Paul.
« Est-ce que je parle en grec, mon ami? Je viens de te dire que j'ai commencé par lui demander son avis. Quant à toi, j'étais sûr que tu ne me refuserais pas. »
« J'en suis bien fâché, mon oncle, » dit Paul d'un ton calme mais décidé. « Vous étiez dans l'erreur. » Nous défions l'artiste le plus habile de rendre l'expression de profond étonnement qui se peignit sur la physionomie de Don Martin en entendant ces paroles. Tous deux restèrent muets. Paul, semblable au marin qui, à l'approche de l'orage, ferle ses voiles et s'apprête à résister à la tourmente, s'arma de patience et de fermeté. « Pauvre Clémentia, pensait-il, cher ange qui se sacrifie en souriant à une volonté qu'elle respecte et qui pleure en secret. Non, je n'abuserai pas de ton obéissance et de ta faiblesse, tu auras toujours en moi un homme prêt à te défendre, même aux dépens de son cœur. »
« Tu refuses donc, s'écria Don Martin, une femme issue de l'ancienne famille des Ponce de Léon, une jeune veuve, ma fille, si belle, un ange de vertu. Et pourrais-tu me dire pourquoi ?»«
Mieux que personne, mon oncle, j'apprécie le mérite de Clémentia. Seulement, je ne me crois pas digne d'elle. » »«
À d'autres, tu ne me feras pas croire que tu refuses cette offre parce qu'elle est trop belle, le mariage parce qu'il est trop avantageux. »
Paul hésita un moment avant de trouver une réponse. Il savait que son oncle ne comprendrait pas les vrais motifs de son refus, aussi se contenta-t-il de lui dire
« Le fait est que je ne puis pas me marier. »«
Et pourquoi, voyons ?
J'aime les réponses claires. »«
J'ai de bonnes raisons et je désire que vous ne me les demandiez pas, mon oncle. »«
Tu as peut-être une passion, coquin. » »«
Non, monsieur, » répondit Paul avec une noble indignation.
« Tu es malade, peut-être ? »
Paul s'arrêta un moment, puis il reprit.
« Je le crois, mon oncle. » Et si je ne le suis pas, j'ai peur de l'être. Vous savez que mon frère est mort de la poitrine. La mienne n'est pas très forte. Aussi, le médecin m'a-t-il souvent conseillé d'attendre encore avant de me marier.
Et quel est l'Hippocrate qui t'a donné ce conseil?
Un médecin de Séville.
C'est un âne.
C'est au contraire un homme très habile et d'une grande expérience.
Mais qu'est-ce que tu éprouves? Demanda Don Martin.
« Mon oncle, » répondit Paul, fatigué d'une telle insistance et ne pouvant plus reculer, « si je ne suis pas précisément malade, je ne me porte cependant pas bien non plus. Je me sens parfois faible, abattu, oppressé. »«
Faible ?» s'écria Don Martin. « Voyez un peu ce gaillard qui terrasse un taureau aussi facilement qu'un enfant renverse un château de cartes et vous dompte un poulain sauvage au point de le rendre aussi doux qu'un agneau. Faible ?» C'est-à-dire que s'il te prenait envie de secouer l'une des colonnes de la cour, nous péririons tous écrasés comme les Philistins.
Mon frère domptait aussi les poulains et renversait des taureaux, et il est mort poitrinaire. » Paul cachait à dessein que la maladie de son frère était venue à la suite d'une chute de cheval. Don Martin se tut, mais il n'était pas convaincu. D'un autre côté, il ne pouvait concevoir d'autre mobile à l'étrange conduite de Paul. Il revint à la charge avec de nouvelles armes. « J'avais pensé, dit-il, que cette proposition rendait facile à arranger tout ce qui regarde ma succession. Puisque tu es si faible, si malade que le mariage te fasse peur, je te préviens que Clémentia, ma belle-fille, que j'aime comme mon propre enfant, n'en sera pas moins la seule héritière, non seulement de mes biens libres que je crois en toute justice devoir lui léguer, mais encore de la moitié de mon majorat dont la loi m'autorise à disposer. » Paul respira plus librement en voyant la question placée sur ce terrain. « Rien n'est plus juste ni plus naturel, » s'écria-t-il avec expansion. « Si vous n'aviez pas eu cette pensée, je vous aurais prié de le faire. » Don Martin poussait cette fois dans ses derniers retranchements et, croyant la généreuse action de Paul inspirée par le mépris de ses offres, lui adressa cette menace dictée par son exaspération. « Il me sera même facile, aujourd'hui que tout est sans dessus-dessous en Espagne, d'obtenir des lettres royales portant l'autorisation de léguer à ma fille toute ma fortune. » « Plût à Dieu que vous le fissiez, mon oncle, » répondit Paul avec une évidente satisfaction qui confondit Don Martin. Le bonhomme ne soupçonnait nullement le mobile de la conduite de son neveu. L'eût-il connu d'ailleurs, il n'eût pu y croire. Car il n'aurait jamais compris que l'on renonçât à son amour par amour. Paul, dit-il en se levant tout en colère, je te croyais déjà bien borné, mais foi de Martin, je ne te savais pas si bête. L'avenir t'apprendra à tes dépens la vérité de ce proverbe. Qui ne sait pas accueillir la fortune quand elle arrive n'a pas le droit de se plaindre quand elle part. En disant cela, il sortit en maugréant. Pour la première fois, Don Martin se sentait embarrassé. Il ne savait pas comment se tirer de là et détromper Clémentia. Elle avait un tel ascendant sur lui que, pour ne pas risquer de la blesser, Don Martin s'était presque résigné à passer sous silence le refus de Paul, refus dont le souvenir l'exaspérait, l'étouffait, le mettait hors de lui et lui exaltait la bile contre son neveu. « De ma vie, je n'ai rien vu de pareil, se disait-il. Moi, forcé de me taire, et cela à cause de cet imbécile qui se croit malade sur la foi d'un docteur ignorant. Son père n'a jamais fait que des bêtises et bon chien chasse de race. Est-ce par hasard qu'il ne la trouverait pas à son goût? Ce n'est pas possible, il lui faudrait être aveugle ou avoir un caillou à la place du cœur. Décidément, il a manqué sa vocation. Il eût dû se faire moine mendiant puisqu'il ne veut ni femme ni héritage. » Clémentia, de son côté, augurant favorablement du silence de son père et pensant qu'il avait renoncé à son projet, renaissait à la joie. Du reste, elle ne soupçonnait pas un refus de la part de Paul, soit à cause de ce secret instinct des femmes qui les avertit de l'impression qu'elles produisent, soit qu'elle jugeât impossible l'opposition de Paul à la volonté de son oncle. 15 jours après, Don Martin revint à la charge auprès de son neveu, mais il le trouva aussi inflexible que la première fois. Poussé alors par un sentiment de délicatesse que les seules affections vraies savent inspirer, il dit à sa belle-fille « Clémentia, j'ai compris que mon projet ne te plaisait pas, ainsi n'en parlons plus. Pourvu que tu ne me quittes pas, fais comme tu voudras pour tout le reste, et quand je ne serai plus… » « Oh, mon père !» s'écria Clémentia en l'interrompant les larmes aux yeux. « Je sais que tu me regretteras, mais les vieux, ma fille, doivent partir les premiers, et comme abondance de biens diminue le chagrin, je veux te laisser de quoi rouler carrosse. »« Y pensez-vous, mon père? Je les déteste. » !»« Eh bien, ce sera pour te parer. » »« Je n'aime pas la toilette, vous le savez. » »« Alors pour les diamants, car tu mérites d'en porter. » Mon père, Calderon, a dit, « L'or habille le corps, la noblesse, l'âme. » Mais il ne dit pas, et il devrait le dire, que l'âme revêtue de noblesse est mieux logée dans un corps vêtu d'or que dans un corps couvert de haillons. Ainsi donc, petit docteur en jupon, tu auras de l'argent, oui, tu en auras, quand ce serait pour le jeter par la fenêtre. Est-ce que par hasard, ajouta-t-il entre ses dents, je serais obligé d'emporter ma fortune dans l'autre monde? Caramba !